Jane Eyre, chapitre 15. Monsieur Rochester me l'expliqua, en effet. Une après-midi que je me promenais dans les champs avec Adèle, je le rencontrai, et il me pria de le suivre dans une avenue de hêtres qui était devant nous, tandis que mon élève jouerait avec Pilot et ses volants. Il me raconta alors qu'Adèle était la fille d'une danseuse de l'opéra français, Céline Varens, pour laquelle il avait eu ce qu'il appelait une grande passion. Céline avait feint d'y répondre par un amour plus ardent encore. Il se croyait idolâtré, quelque laid qu'il fût, il se figurait, me dit-il, qu'elle préférait sa taille d'athlète à l'élégance de l'Apollon du Belvédère. Et je fus si flattée, mademoiselle R, de la préférence de la sylphide française pour son gnome anglais, que je l'installai dans un hôtel et lui donnai un établissement complet, domestique, voiture, cachemire, diamants, dentelles, etc. En un mot, j'étais en train de me ruiner, dans le style adopté comme le premier venu. Je n'avais même pas l'originalité de chercher une route nouvelle pour me conduire à la bonté et à la ruine. Mais je suivais la vieille ornière, avec une stupide exactitude, et je ne m'écartais pas d'un pouce du sentier battu. J'eus, comme je le méritais, le sort de tous les dissipateurs. Je vins un soir où Céline ne m'attendait pas, elle était sortie. La nuit était chaude, fatiguée d'avoir couru dans tout Paris, je m'assis dans son boudoir, heureux de respirer l'air consacré par sa présence. J'exagère, je n'ai jamais cru qu'il y eût autour de sa personne quelque vertu sanctifiante. Non, elle n'avait laissé derrière elle que l'odeur du musc et de l'ambre. Le parfum des fleurs mêlé aux émanations des essences commençait à me monter à la tête lorsque j'eus l'idée d'ouvrir la fenêtre et de m'avancer sur le balcon. Il faisait clair de lune et le gaz était allumé. La nuit était calme et sereine. Quelques chaises se trouvaient sur le balcon, je m'assis et je pris un cigare. Je vais en prendre un, si vous voulez bien me le permettre. Il fit une pause, tira un cigare de sa poche, l'alluma, le plaça entre ses lèvres, jeta une bouffée d'encens avané dans l'air glacé et reprit. J'aimais aussi les bonbons à cette époque, mademoiselle R. Je croquais des pastilles de chocolat et je fumais alternativement, regardant défiler les équipages le long de cette rue à la mode, voisine de l'opéra, lorsque j'aperçus une élégante voiture fermée traînée par deux beaux chevaux anglais et qu'éclairaient en plein les brillantes lumières de la ville. Je reconnus la voiture que j'avais donnée à Céline. Elle rentrait. Mon cœur bondit naturellement d'impatience sur la rampe de fer où je m'appuyais. La voiture s'arrêta à la porte de l'hôtel. Ma flamme, c'est le mot propre pour une inamorata d'opéra, s'alluma. Quoique Céline fût enveloppée d'un manteau, embarras bien inutile pour une si chaude soirée de juin, je reconnus immédiatement son petit pied qui sortit de dessous sa robe au moment où elle sauta de voiture. Penchée sur le balcon, j'allais murmurer « Mon ange !» mais d'une voix que l'amour seul eût pu entendre. Lorsqu'une autre personne, enveloppée également d'un manteau, sortit après elle, mais cette fois ce fut un talon éperonné qui frappa le pavé, et ce fut un chapeau d'homme qui passa sous la porte cochère de l'hôtel. Vous n'avez jamais senti la jalousie, n'est-ce pas, mademoiselle R ? Quelle question, puisque vous ne connaissez pas l'amour. Vous avez à éprouver ces deux sentiments. Votre âme dort. Vous n'avez pas encore reçu le choc qui doit la réveiller. Vous croyez que toute l'existence coule sur un flot aussi paisible que celui où a glissé jusqu'ici votre jeunesse. Les yeux fermés, les oreilles bouchées, vous vous laissez bercer au courant sans voir les rochers qui montent sous l'eau et les brisants qui bouillonnent. Mais je vous le dis, vous pouvez me croire. Un jour, vous arriverez aux écueils. Un jour, votre vie se brisera dans un tourbillon tumultueux, en une bruyante écume. Alors, vous volerez sur les pics des rochers comme une poussière liquide, ou bien, soulevé par une vague puissante, vous serez jeté dans un courant plus calme. Ah, j'aime cette journée. J'aime ce ciel d'acier, j'aime l'immobilité et la dureté de ce paysage sous cette gelée. J'aime Thornfield, son antiquité, son isolement, ses vieux arbres, ses buissons épineux, sa façade grise et les lignes de ses fenêtres sombres qui réfléchissent ce ciel métallique. Et cependant, j'en ai longtemps abhorré la seule pensée. Je l'ai évitée comme une maison maudite et que je déteste encore. Il serra les dents et se tut. Il s'arrêta et frappa du pied le sol durci. Une pensée fatale semblait l'étreindre si fortement qu'il ne pouvait faire un pas. Nous montions l'avenue lorsqu'il s'arrêta ainsi. Le château était devant nous. Il jeta sur les créneaux un regard comme je n'en ai jamais vu de ma vie. La douleur, la honte, la colère, l'impatience, le dégoût, la haine semblèrent lutter un moment dans sa large prunelle dilatée sous son sourcil d'ébène. Le combat fut terrible, mais un autre sentiment s'éleva et triompha. C'était quelque chose de dur, de cynique, de résolu et d'inflexible. Il dompta son émotion, pétrifia son attitude et poursuivit. Pendant que je gardais le silence, mademoiselle R., je réglais un compte avec ma destinée. Elle était là, près de ce tronc de hêtre, comme une des sorcières qui apparurent à Macbeth sur la bruyère des Fawes. « Vous aimez Thornfield ?» me disait-elle en levant le doigt, et elle écrivait dans l'air un souvenir qui courait s'imprimer en hiéroglyphes lugubres sur la façade du château. « Aimez-le si vous le pouvez. Aimez-le si vous l'osez. Oui, je l'aimerai, répondis-je. J'ose l'aimer. » Et il ajouta avec emportement, « Je tiendrai ma parole. Je briserai les obstacles qui m'empêchent d'être heureux et bon. Oui, bon. Je voudrais être meilleur que je n'ai été jusqu'ici, que je ne suis. De même que la baleine de Job brisa la lance et le dard, de même ce que les autres regarderaient comme des barrières de fer tombera sous ma main comme de la paille ou du bois pourri. » À ce moment, Adèle vint se jeter dans ses jambes avec son volant. « Éloigne-toi d'ici, enfant, s'écria-t-il durement, ou va jouer avec Sophie. » Puis il continua à marcher en silence. Je hasardai de le rappeler au sujet dont il s'était écarté. « Avez-vous quitté le balcon lorsque mademoiselle Varens entra ?» lui demandai-je. Je m'attendais presque à une rebuffade pour cette question intempestive, mais au contraire, sortant de sa rêverie, il tourna les yeux vers moi et son front sembla s'éclaircir. « Ah oui, j'avais oublié Céline, me dit-il. Eh bien, lorsque je vis ma magicienne escortée d'un cavalier, le vieux serpent de la jalousie se glissa en sifflant sous mon gilet et en un instant m'eut percé le cœur. « Il est étrange, s'écria-t-il en s'interrompant de nouveau. Il est étrange que je vous choisisse pour confidente de tout ceci, jeune fille. Il est plus étrange encore que vous m'écoutiez tranquillement, comme si c'était là la chose la plus naturelle du monde, qu'un homme tel que moi racontât l'histoire de ses maîtresses à une jeune fille simple et inexpérimentée comme vous. Mais cette dernière singularité explique la première. Avec cet air grave, prudent et sage, vous avez bien la tournure d'une confidente. D'ailleurs, je sais avec quel esprit mon esprit est entré en communion. C'est un esprit à part, et sur lequel la contagion du mal ne peut rien. Heureusement, je ne veux pas lui nuire, car si je le voulais, je ne le pourrais pas. Nos conversations sont bonnes, je ne puis pas vous souiller, et vous me purifiez. » Après cette digression, il continua. Je restai sur le balcon. Ils viendront sans doute dans le boudoir, pensai-je. Préparons une embuscade. Passant ma main à travers la fenêtre ouverte, je tirai le rideau. Je laissai seulement une petite ouverture pour faire mes observations. Je refermai aussi la persienne en ménageant une fente par laquelle pouvaient m'arriver les paroles étouffées des amoureux. Puis je me rassis au moment où le couple entrait. Mon œil était fixé sur l'ouverture. La femme de chambre de Céline alluma une lampe et se retira. Je vis alors les amants. Ils déposèrent leurs manteaux. Céline m'apparut, brillante de satin et de bijoux, mes dons sans doute. Son compagnon portait l'uniforme d'officier. Je le reconnus. C'était le vicomte, jeune homme vicieux et sans cervelle, que j'avais quelquefois rencontré dans le monde. Je n'avais jamais songé à le haïr, tant il me semblait méprisable. En le reconnaissant, ma jalousie cessa. Mais aussi mon amour pour Céline s'éteignit. Une femme qui pouvait me trahir pour un tel rival n'était pas digne de moi. Elle ne méritait que le dédain. Moins que moi, pourtant, qui avais été sa dupe. Ils commencèrent à causer. Leur conversation me mit complètement à mon aise. Frivole, mercenaire, sans cœur et sans esprit. Elle semblait faite plutôt pour ennuyer que pour irriter. Ma carte était sur la table. Dès qu'ils la virent, ils se mirent à parler de moi. Mais ni l'un ni l'autre ne possédait assez d'énergie ou d'esprit pour me travailler d'importance. Ils m'outrageaient de toutes leurs forces. Céline, surtout, brillait sur le chapitre de mes défauts et de mes laideurs. Elle qui avait témoigné une si fervente admiration pour ce qu'elle appelait ma beauté mâle, en quoi elle différait bien de vous, qui m'avez dit à bout portant, dès notre première entrevue, que vous ne me trouviez pas beau. Ce contraste m'a frappé alors et... À ce moment, Adèle accourut encore vers nous. « Monsieur, dit-elle, John vient de dire que votre intendant est arrivé et vous demande... » Ah, dans ce cas, il faut que j'abrège. J'ouvris la fenêtre et je m'avançai vers eux. Je libérai Céline de ma protection, je la priai de quitter l'hôtel et lui offris ma bourse pour faire face aux exigences du moment, sans me soucier de ses cris, de ses protestations, de ses convulsions, de ses prières. Je pris un rendez-vous au bois de Boulogne avec le vicomte. J'eus le plaisir de me battre avec lui le lendemain. Je logeai une balle dans l'un de ses pauvres bras étiolés et faibles comme l'aile d'un poulet étique. Et alors je crus en avoir fini avec toute la clique, mais malheureusement, 6 mois avant, Céline m'avait donné cette fillette qu'elle affirmait être ma fille. C'est possible, bien que je ne retrouve chez elle aucune preuve de ma laide paternité. Pilote me ressemble davantage. Quelques années après notre rupture, sa mère l'abandonna et s'enfuit en Italie, avec un musicien ou un chanteur. Je n'admets pas que je doive rien à Adèle, et je ne lui demande rien, car je ne suis pas son père. Mais ayant appris son abandon, j'enlevai ce pauvre petit être au bout de Paris, et je la transportai ici, pour l'élever sainement sur le sol salubre de la campagne anglaise. Madame Fairfax a eu recours à vous pour son éducation, mais maintenant que vous savez qu'Adèle est la fille légitime d'une danseuse de l'opéra, vous n'envisagerez peut-être plus de la même manière votre tâche et votre élève. Vous viendrez peut-être quelques jours à moi en me disant que vous avez trouvé une place et que vous me priez de chercher une autre gouvernante. Non, monsieur, Adèle n'est pas responsable des fautes de sa mère et des vôtres, puisqu'elle n'a pas de parents, que sa mère l'a abandonnée et que vous, monsieur, vous la reniez. Eh bien, je m'attacherai à elle plus que jamais. Comment pourrais-je préférer l'héritier gâté d'une famille riche qui détesterait sa gouvernante à la pauvre orpheline qui chercha une amie dans son institutrice. Oh, si c'est là votre manière de voir les choses. Mais il faut que je rentre maintenant, et vous aussi, car voici la nuit. Je restai encore quelques minutes avec Adèle et Pilote. Je courus un peu avec elle et je jouai une partie de volant. Lorsque nous fûmes rentrés et que je lui eus retiré son chapeau et son manteau, je la pris sur mes genoux et je la laissai babiller 1 heure environ. Je lui permis même quelques petites libertés qu'elle aimait tant à prendre pour se faire remarquer. Car là se trahissait en elle le caractère léger que lui avait légué sa mère et qui est si différent de l'esprit anglais. Cependant, elle avait ses qualités et j'étais disposée à apprécier au plus haut point tout ce qu'il y avait de bon en elle. Je cherchais dans ses traits et son maintien une ressemblance avec M. Rochester, mais je ne pus pas en trouver. Rien en elle n'annonçait cette parenté. J'en étais fâchée. Si seulement elle lui avait ressemblé un peu, il aurait eu meilleure opinion d'elle. Ce ne fut qu'au moment de me coucher que je me mis à repasser dans ma mémoire l'histoire de M. Rochester. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans le récit lui-même. La passion d'un riche gentleman pour une danseuse française, la trahison de celle-ci, étaient des faits qui devaient arriver chaque jour. mais il y avait quelque chose d'étrange dans son émotion au moment où il s'était dit heureux d'être revenu dans ce vieux château. Je réfléchis sur cet incident, mais j'y renonçai bientôt, le trouvant inexplicable, et je me mis alors à songer aux manières de M. Rochester. Le secret qu'il avait jugé à propos de me révéler semblait un dépôt confié à ma discrétion. Du moins, je le regardais comme tel, et je l'acceptais. Depuis quelques semaines, sa conduite envers moi était plus égale qu'autrefois. Je ne paraissais plus le gêner jamais. Il avait renoncé à ses accès de froid dédain. Quand il me rencontrait, il me souriait et avait toujours un mot agréable à me dire. Quand il m'invitait à paraître devant lui, il me recevait cordialement, ce qui me prouvait que j'avais vraiment le pouvoir de l'amuser et qu'il recherchait ses conversations du soir autant pour son plaisir que pour le mien. Je parlais peu, mais j'avais plaisir à l'entendre. Il était communicatif. Il aimait à montrer quelques scènes du monde à un esprit qui ne connaissait rien de la vie. Il ne me mettait pas sous les yeux des actes mauvais et corrompus, mais il me parlait de choses pleines d'intérêt pour moi, parce qu'elles avaient lieu sur une échelle immense et qu'elles étaient racontées avec une singulière originalité. J'étais heureuse lorsqu'il m'initiait à tant d'idées neuves et qu'il faisait voir de nouvelles peintures à mon imagination, qu'il révélait à mon esprit des régions inconnues. Il ne me troublait plus jamais par de désagréables allusions. Ses manières aisées me délivrèrent bientôt de tout espace de contrainte. Je fus attirée à lui par la franchise amicale avec laquelle il me traita. Il y avait des moments où je le considérais plutôt comme un ami que comme un maître. Cependant, quelquefois encore, il était impérieux, mais je voyais bien que c'était sans intention. Ce nouvel intérêt ajouté à ma vie me rendit si heureuse, si reconnaissante, que je cessai de désirer une famille. Ma destinée sembla s'élargir. Les vides de mon existence se remplirent, ma santé s'en ressentit, mes forces augmentèrent. Et M. Rochester était-il encore laid à mes yeux? Non. La reconnaissance et de douces et agréables associations d'idées faisaient que je n'aimais rien tant que de voir sa figure. Sa présence dans une chambre était plus réjouissante pour moi que le feu le plus brillant. Cependant, je n'avais pas oublié ses défauts. Je ne le pouvais pas, car ils apparaissaient sans cesse. Il était orgueilleux, sardonique, dur pour toute espèce d'infériorité. Dans le fond de mon âme, je savais bien que sa grande bonté pour moi était balancée par une injuste sévérité pour les autres. Il était capricieux, bizarre. Plus d'une fois, lorsqu'on m'envoya pour lui faire la lecture, je le trouvai assis seul dans la bibliothèque, la tête inclinée sur ses bras croisés, et lorsqu'il levait les yeux, j'apercevais sur ses traits une expression morose et presque méchante. Mais je crois que sa dureté, sa bizarrerie et ses fautes passées, je dis passées car il semblait y avoir renoncé, provenaient de quelque grand malheur. Je crois que la nature lui avait donné des tendances meilleures, des principes plus élevés, des goûts plus purs que ceux qui furent développés chez lui par les circonstances et que la destinée encouragea. Je crois qu'il y avait de bons matériaux en lui, quoiqu'il fût souillé pour le moment. Je dois dire que j'étais affligée de son chagrin, et que j'aurais beaucoup donné pour l'adoucir. J'avais éteint ma chandelle, et je m'étais couchée. Néanmoins, je ne pouvais pas dormir, et je pensais toujours à l'expression de sa figure au moment où il s'était arrêté dans l'avenue, et où, disait-il, sa destinée l'avait défié d'être heureux à Thornfield. Et pourquoi ne le serait-il pas? Me demandai-je. Qu'est-ce qui l'éloigne de cette maison? La quittera-t-il encore bientôt? Madame Fairfax m'a dit qu'il y restait rarement plus de 15 jours, et voilà 8 semaines qu'il demeure ici. S'il part, quel triste changement! S'il s'absente pendant le printemps, l'été et l'automne, le soleil et les beaux jours ne pourront apporter aucune gaieté au château. Je ne sais si je m'endormis ou non, mais tout à coup j'entendis au-dessus de ma tête un murmure vague, étrange et lugubre, qui me fit tressaillir. J'aurais désiré une lumière, car la nuit était obscure, et je me sentais oppressée. Je me levai, je m'assis sur mon lit et j'écoutai. Le bruit avait cessé. J'essayais de me rendormir, mais mon cœur battait violemment. Ma tranquillité intérieure était brisée. L'horloge de la grande salle sonna 2 heures. À ce moment, il me sembla qu'une main glissait sur ma porte comme pour tâter son chemin le long du sombre corridor. « Qui est là ? » demandai-je. Personne ne répondit. J'étais glacée de peur. Je me dis que ce pouvait bien être Pilote qui, lorsque la cuisine se trouvait ouverte, venait souvent se coucher à la porte de M. Rochester. Moi-même, je l'y avais quelquefois trouvé le matin en me levant. Cette pensée me tranquillisa un peu. Je me recouchai. Le silence calme les nerfs, et comme je n'entendis plus aucun bruit dans la maison, je me sentis de nouveau besoin de sommeil. Mais il était écrit que je ne dormirais pas cette nuit. Au moment où un rêve allait s'approcher de moi, il s'enfuit épouvanté par un bruit assez effrayant en effet. Je veux parler d'un rire diabolique et profond qui semblait avoir éclaté à la porte même de ma chambre. La tête de mon lit était près de la porte, et je crus un instant que le démon qui venait de manifester sa présence était couché sur mon traversin. Je me levai, je regardai autour de moi, mais je ne pus rien voir. Le son étrange retentit de nouveau, et je compris qu'il venait du corridor. Mon premier mouvement fut d'aller fermer le verrou, mon second de crier « Qui est là ?» Quelque chose grogna. Au bout d'un instant, j'entendis des pas se diriger du corridor vers l'escalier du 3e, dont la porte fut bientôt ouverte et refermée. Puis tout rentra dans le silence. « Est-ce Grace Poole ? Est-elle possédée ? » me demandai-je. « Impossible de rester seule plus longtemps. Il faut que j'aille trouver Madame Fairfax. » Je mis une robe et un châle. Je tirai le verrou et j'ouvris la porte en tremblant. Il y avait une chandelle allumée dans le corridor. Je fus étonnée, mais ma surprise augmenta bien davantage lorsque je m'aperçus que l'air était lourd et rempli de fumée. Je regardai autour de moi pour comprendre d'où cela pouvait venir quand je sentis une odeur de brûlé. J'entendis craquer une porte. C'était celle de M. Rochester, et c'était de là que sortait un nuage de fumée. Je ne pensais plus à Madame Fairfax, ni à Grace Poole, ni au rire étrange. En un instant, je fus dans la chambre de M. Rochester. Les rideaux étaient en feu, et M. Rochester profondément endormi au milieu de la flamme et de la fumée. « Réveillez-vous ! » lui criai-je en le secouant. Il marmonna quelque chose et se retourna. La fumée l'avait à moitié suffoqué. Il n'y avait pas un moment à perdre. Le feu venait de se communiquer au drap. Je courus à son pot à eau et à son aiguière. Heureusement que l'une était large, l'autre profond, et que tous deux étaient pleins d'eau. J'inondai le lit et celui qui l'occupait. Puis j'allai dans ma chambre chercher l'autre eau. Enfin, je parvins à éteindre le feu. Le sifflement des flammes mourantes, le bruit que fit mon pot à eau en s'échappant de mes mains en tombant à terre, et surtout la fraîcheur de l'eau que j'avais si libéralement répandue, finirent par réveiller M. Rochester. Bien qu'il fît très sombre, je m'en aperçus en l'entendant fulminer de terribles anathèmes lorsqu'il se trouva couché dans une mare. « Y a-t-il une inondation ? » cria-t-il. « Non, monsieur, répondis-je, mais il y a eu un incendie. Levez-vous, vous êtes sauvé. Maintenant, je vais aller vous chercher une lumière. »« Au nom de toutes les fées de la chrétienté, est-ce vous, Jane Eyre ? » demanda-t-il. « Que m'avez-vous donc fait, petite sorcière ? Qui est venu dans cette chambre avec vous ? Avez-vous juré de me noyer ? Je vais aller vous chercher une lumière, monsieur. Mais au nom du ciel, levez-vous. Quelqu'un en veut à votre vie. Vous ne pouvez pas trop vous hâter de découvrir qui. » « Me voilà levé. Attendez une minute que je trouve des vêtements secs, si toutefois il y en a encore. Ah, voilà ma robe de chambre. Maintenant, courez chercher une lumière. » Je partis et je rapportai la chandelle qui était restée dans le corridor. Il me la prit des mains et examina le lit noirci par la flamme, ainsi que les draps et le tapis couvert d'eau. « Qui a fait cela ? » demanda-t-il. Je lui racontai brièvement ce que je savais. Je lui parlai du rire étrange, des pas que j'avais entendus se diriger vers le 3e, de la fumée et de l'odeur qui m'avait conduite à sa chambre, de l'état dans lequel je l'avais trouvée. Enfin, je lui dis que pour éteindre le feu, j'avais jeté sur lui toute l'eau que j'avais pu trouver. Il m'écouta sérieusement. Sa figure exprimait plus de tristesse que d'étonnement. Il resta quelque temps sans parler. « Voulez-vous que j'avertisse Madame Fairfax ?» demandai-je. « Madame Fairfax ? Non, pourquoi diable l'appeler ? Que ferait-elle ? Laissez-la dormir tranquille. « Alors je vais aller éveiller Léa, John et sa femme. »« Non, restez ici. Vous avez un châle. Si vous n'avez pas assez chaud, enveloppez-vous dans mon manteau et asseyez-vous sur ce fauteuil. Maintenant, mettez vos pieds sur ce tabouret afin de ne pas les mouiller. Je vais prendre la chandelle et vous laisser quelques instants. Restez ici jusqu'à mon retour. Soyez aussi tranquille qu'une souris. Il faut que j'aille visiter le troisième et surtout, ne bougez pas. » Et n'appelait personne. Il partit, et je suivis quelque temps la lumière. Il traversa le corridor, ouvrit la porte de l'escalier aussi doucement que possible, la referma, et tout rentra dans l'obscurité. J'écoutai, mais je n'entendis rien. Il y avait déjà longtemps qu'il était parti, j'étais fatiguée, j'avais froid, malgré le manteau qui me couvrait. Je ne voyais pas la nécessité de rester puisqu'il était inutile d'aller réveiller personne. J'allais risquer d'encourir le mécontentement de M. Rochester en désobéissant à ses ordres lorsque j'aperçus la lumière et que j'entendis ses pas le long du corridor. « J'espère que c'est lui, » pensai-je. Il entra, pâle et sombre. « J'ai tout découvert, » dit-il en posant sa lumière sur la table de toilette. « C'était bien ce que je pensais. » « Comment, monsieur ?» Il ne répondit pas, mais croisant les bras, il regarda quelque temps à terre. Enfin, au bout de plusieurs minutes, il me dit d'un ton étrange « Avez-vous vu quelque chose au moment où vous avez ouvert la porte de votre chambre ?»« Non, monsieur, rien que le chandelier. »« Mais vous avez entendu un rire singulier. Ne l'aviez-vous pas déjà entendu, ou du moins quelque chose qui y ressemble ?»« Oui, monsieur. » « Il y a ici une femme, appelée Grace Poole, qui rit de cette manière. C'est une étrange créature. »« Oui, Grace Poole, vous avez deviné. Elle est étrange, comme vous le dites. Je réfléchirai sur ce qui vient de se passer. En attendant, je suis content que vous et moi soyons seuls à connaître les détails de cette affaire. N'en parlez jamais. J'expliquerai tout ceci, » ajouta-t-il en indiquant le lit. « Retournez dans votre chambre. » « Quant à moi, le divan de la bibliothèque me suffira pour le reste de la nuit. Il est 4 heures. Dans 2 heures, les domestiques seront levés. »« Alors bonsoir, monsieur, » dis-je en me levant. Il sembla surpris, bien que lui-même m'eût dit de partir. « Quoi ? » s'écria-t-il. « Vous me quittez déjà ? Et de cette manière ? Vous m'avez dit que je le pouvais, monsieur. » Mais pas ainsi, sans prendre congé, sans me dire un seul mot, et de cette manière sèche et brève. Vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez arraché à une mort horrible, et vous me quittez comme si nous étions étrangers l'un à l'autre. Donnez-moi au moins une poignée de main. » Il me tendit sa main. Je lui donnai la mienne, qu'il prit d'abord dans une de ses mains, puis dans toutes les deux. Vous m'avez sauvé la vie, et je suis heureux d'avoir contracté envers vous cette dette immense. Je ne puis rien dire de plus. J'aurais souffert d'avoir une telle obligation envers toute autre créature vivante, mais envers vous, c'est différent. Ce que vous avez fait pour moi ne me pèse pas, Jane. » Il s'arrêta et me regarda. Les paroles tremblaient sur ses lèvres et sa voix était émue. « Encore une fois, bonsoir, monsieur. » « Mais il n'y a ici ni dette, ni obligation, ni fardeau. »« Je savais, » continua-t-il, « qu'un jour ou l'autre vous me feriez du bien. Je l'ai vu dans vos yeux la première fois que je vous ai regardé. Ce n'est pas sans cause que leur expression et leur sourire. » Il s'arrêta, puis continua rapidement. « Me firent du bien jusqu'au plus profond de mon cœur. Le peuple parle de sympathie naturelle et de bon génie. » Il y a du vrai dans les fables les plus bizarres. Ma protectrice, chérie, bonsoir. » Sa voix avait une étrange énergie et ses yeux brillaient d'une flamme singulière. « Je suis heureuse de m'être trouvée éveillée, » dis-je en me retirant. « Comment ? Vous partez ? J'ai froid, monsieur. Ah, c'est vrai, et vous êtes là dans l'eau. Allez, Jane, allez. mais il tenait toujours ma main et je ne pouvais partir. Je pris un expédient. « Il me semble, monsieur, dis-je, que j'entends remuer Madame Fairfax. Alors quittez-moi. » Il lâcha ma main et je partis. Je regagnai mon lit, mais sans songer à dormir. Le matin arriva au moment où je me sentais emporté sur une mer houleuse dont les vagues troublées se mélangeaient aux ondes joyeuses. Il me semblait voir au-delà de ces eaux furieuses un rivage doux comme les montagnes de Bela. De temps en temps, une brise rafraîchissante éveillée par l'espoir me soutenait et me menait triomphalement au but. Mais je ne pouvais pas l'atteindre, même en imagination. Un vent contraire m'écartait de la terre et me repoussait au milieu des vagues. En vain mon bon sens voulait résister à mon délire, ma sagesse, à ma passion. Trop fiévreuse pour m'endormir, je me levai aussitôt que je vis poindre le jour.